célébrons aujourd'hui la fête de tous les saints. C'est une des grandes fêtes de l'Église universelle du Christ, c'est-à-dire la fête de ceux qui ont été dans l'histoire du monde, les vrais disciples de Jésus-Christ et qui ont obéi à ce commandement qui nous est dit dans l'Évangile, soyez parfaits comme votre Père est parfait, c'est-à-dire approchez-vous de la sainteté. Et on a eu ces saints dans l'histoire de l'Église qui ont, dans une Église qui est une institution divine, mais en même temps une institution humaine, avec souvent bien de très bons éléments et puis des éléments moins bons, parce que la liberté n'a jamais été abolie pour l'homme. L'homme est toujours libre de suivre ou non le chemin du Christ, et il nous a été dit que sur notre chemin, nous trouvions le mal, et les diables dans le monde. Et puis notre propre mal-être aussi fait que parfois nous prenons des mauvais chemins. Les saints sont ceux qui ont suivi le Christ et qui ont surmonté les obstacles de la vie. Et comment est-ce qu'on a découvert qu'ils étaient des saints? Eh bien, parce que la perfection de leur vie, la douceur évangélique, ce que l'on trouve dans ces béatitudes qui sont sans doute un des passages les plus merveilleux de l'évangile du Christ et qui est vraiment le message du Christ laissé aux hommes sur cette montagne. C'est surtout sur les grandes montagnes que se perdent les choses. Le Sinaï, c'est la révélation sur le Sinaï, sur la montagne. Jésus grimpe sur la montagne aussi pour donner cet évangile des béatitudes qui est une merveille de l'amour de Dieu pour nous et aussi le grand conseil donné à chacun de nous pour plaire à Dieu. Tous ces magnifiques versets sont splendides et le Seigneur lui-même monte sur la montagne pour le salut quand il monte sur le Golgotha. Donc tout se passe sur les montagnes. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes souvent en bas de la vallée et que pour nous identifier au Seigneur et au message du Christ pour l'humanité, il faut monter sur une montagne qui est la montagne de nous-mêmes, c'est-à-dire on doit travailler à l'œuvre du salut et on travaille à l'œuvre du salut. Parce que ce qui nous est promis par Dieu dans la mort de ce monde où tout se couche, tout être vivant finit par être par s'éteindre, eh bien le Seigneur a promis l'éternité, c'est-à-dire a promis le ciel, un univers de béatitude qui est pour ceux qui suivront ce chemin justement, le chemin du Christ. Et le chemin du Christ, il l'a pris lui-même, souffrant tout le temps un peu pour le faire son ministère pendant ses 33 ans. Et le sommet du ministère du Christ, c'est la croix. Il monte sur la croix et donc par ses souffrances, il fait un sacrifice à Dieu, qui est un sacrifice d'amour qui est fait pour nous, pour que la justice de Dieu se transforme en miséricorde. Et donc tout l'évangile rassemble tout ce que Jésus a vécu et rassemblé aussi dans ses béatitudes, parce que le Seigneur a été celui qui a été le pauvre en esprit, c'est-à-dire l'innocence, ne connaissant pas le mal. Il est le pauvre, ce qu'on appelle les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'innocence. Après, le Seigneur a été très doux toujours, le Seigneur a été affligé, et aussi le Seigneur a eu faim et soif de la justice pour apporter au monde cette faim et soif. Il a été la miséricorde, évidemment, incarnée, et il a eu le cœur si pur qu'on honore encore aujourd'hui son Sacré-Cœur. Vous voyez, dans cette période où un film a été même sorti dans les médias, que ce soit très très beau film qui est sur la miséricorde de Dieu à travers le Sacré-Cœur de Jésus. Le Pacifique, c'est vraiment Jésus. Il donc lui-même est appelé Fils de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et ceux qui sont persécutés par la justice, comme l'a été le Christ. Et aussi, on l'a insulté, persécuté, on a dit contre lui toutes sortes de mensonges, c'est-à-dire les faux témoignages pour lui. Et réjouissez-vous, exultez, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ça veut dire que nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes de passage ici et nous sommes tous des candidats à la vie éternelle. C'est le grand miracle que les saints ont intégré dans leur vie, la mort et la résurrection du Christ. À la suite de ça, que ce soit tous les apôtres et puis tous les premiers chrétiens, et puis ensuite qu'à chaque siècle surgissent les saints, ceux qui sont dignes de recevoir la grâce, et chaque fois comme ils sont identifiés au message du Christ et au Christ lui-même. Il y a des épousailles mystiques comme Thérèse d'Avila, comme des grands saints comme le Padre Pio qui épouse vraiment. C'est pas une question de sexualité là, c'est une question d'épousailles dans le cœur, et on voit ces grands amours pour le Christ qui ont fait des personnages qui marquent l'histoire chrétienne avec les miracles. On reconnaît les saints à cause des miracles. Et là où il n'y a pas de miracle, eh bien on peut pas toujours. Il y a des saints très discrets, évidemment. On disait que à Rodez, le plus grand saint français, dit Catherine Emmerich, était à Rodez, c'est un saint que personne n'a jamais connu, tellement il a été simple et invisible, il a été si caché. Donc, il dit que la ville de Rodez un jour sera protégée par ce saint en étant de tribulation. Vous voyez, donc les saints, ils sont reconnus parce qu'ils font des miracles, et il suffit de regarder la vie des saints pour avoir le message de Dieu à travers ces miracles. Mais qui a sanctifié ces saints? Ben, c'est l'Église catholique et les Églises apostoliques, c'est-à-dire l'Église romaine ou l'Église orthodoxe qui a ses propres saints. Après, quand on voit, je ne veux pas attaquer le protestantisme, parce qu'on prie pour tous les fidèles chrétiens dans le début de Saint Jean Chrysostome, donc on n'attaque pas. Mais quand un protestant ou bien un mormon s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, comment est-ce qu'il s'appelle Pierre ou Jacques? Grâce à la transmission de l'Église depuis 20 siècles qui fait les saints et qui dit voilà, celui-là c'était un saint. Et donc on a des milliers de saints qui sont dans les registres des Églises apostoliques, et c'est eux, ce sont ces Églises-là qui ont porté non seulement l'Évangile. Quand on nous dit ah oui, les témoins de Jéhovah qui viennent de temps en temps ici faire la retape sur la place du village. Oui, mais enfin, ils sont nés très tard, mais s'il n'y avait pas eu l'Église romaine, et s'il n'y avait pas eu les Églises orthodoxes, personne ne connaîtrait les mêmes l'Évangile. Donc ça a été véhiculé dans l'histoire de la chrétienté par ces Églises apostoliques. Et les saints, on les vénère parce que c'est un dogme de la foi catholique, c'est un ordre de la foi universelle des Églises apostoliques, que les saints sont des intercesseurs auprès de Dieu. C'est-à-dire que nous vénérons évidemment la grande sainte qu'est la Sainte Vierge Marie, là on dit la reine de tous les saints, oui, c'est-à-dire dans le mystère du chapelet, du rosaire, c'est le dernier mystère, Marie couronnée parmi les saints et les anges, voyez, c'est-à-dire... Elle devient la pureté de la Sainte Vierge Marie qui n'a pas connu le péché, en fait l'être le plus lumineux du ciel. On dit qu'elle est la mère de Jésus, la mère de Dieu, définie par un concile évidemment, c'est du Constantinople, mais elle est aussi la fille de Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, et donc il épouse l'Esprit Saint, c'est-à-dire que les énergies de l'Esprit de Dieu sont sur elle avec une grande abondance. Et donc quand nous sommes sur terre, nous travaillons certainement dans l'Église qu'on appelle l'Église militante, mais avec les miracles qui sont souvent dans les mains, à travers les mains et le cœur des saints, mais au ciel, c'est un dogme de la foi qu'ils sont aussi nos intercesseurs auprès de Dieu. Donc le travail ne se termine pas sur la terre, mais ce qu'on appelle l'Église triomphante, eh bien, bénéficie des prières des saints qui intercèdent auprès de Dieu à travers l'invocation que nous en faisons sur terre. Et donc c'est pourquoi nous prions les saints, et que ce n'est pas du tout des prières comme on les faisait chez les païens, où on allait faire une offrande à Athéna pour avoir pour gagner au loto le lendemain. Eh bien nous prions pour que la pureté du Seigneur, cet évangile des béatitudes selon saint Matthieu sur cette montagne où Jésus a parlé si magnifiquement, que cela se grave dans notre cœur par la grâce de Dieu, et le mariage de la grâce de Dieu avec notre bonne volonté. C'est comme ça que le Seigneur veut nous approcher de la sainteté, que petit à petit, sur ce chemin qui nous est donné, un chemin qui n'est pas éternel ici-bas, mais ce chemin de vie qui nous est donné, qui est un miracle que nous devons, je le dis si souvent, mais les trois miracles vraiment qui nous font surgir dans ce monde, le miracle de la création, incroyable miracle, où Dieu fait partir d'une tête d'épingle le monde si vaste et si petit aussi, qu'on ne sait même pas ce que sont les choses qui composent la matière, qu'on appelle la matière, mais qui on ne sait pas exactement si c'est pas seulement une énergie qui est dans l'infiniment petit. Et le Seigneur a fait ce miracle de la création si ordonné. Et le deuxième miracle, c'est la vie. On ne sait pas d'où est venue la vie. Tout d'un coup, pourquoi une plante vit et puis on ne peut pas la reproduire. Mais il nous est dit dans l'Évangile que c'est Jésus qui est le maître de la vie. Donc c'est probablement le Christ qui est le Père. Et dans le premier miracle, le deuxième miracle, on doit l'attribuer au Fils, celui qui a donné la vie et qui donne la vie en abondance. Cela nous est dit dans l'Écriture. Donc c'est chez le Christ que réside cette capacité de la création de la vie. Et puis, le troisième miracle, c'est notre conscience. La conscience que nous soyons avec notre intelligence, cet magnifique ordinateur. Et c'est le troisième miracle, c'est le miracle de l'esprit. Notre esprit est là, simplement notre esprit doit épouser l'esprit de Dieu dans l'invitation qui nous est faite par celui qui est la parole de Dieu, le visage de Dieu certainement, mais la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole, si nous la suivons, si nous avons cette bonne volonté, comme le dit Louise Picaretta, eh bien nous assumons là notre esprit, eh bien, se tourne vers Dieu et nous constatons par le message de la parole qui est le fondement de l'esprit, hein, parce que sinon on ne pourrait pas communiquer, eh bien Dieu a voulu à un moment se montrer, celui qui a fait le monde, celui qui a donné la vie, a envoyé l'esprit sur notre intelligence et nous nous tournons vers Dieu. C'est en cela qu'il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Vous voyez, donc, et la parole de Dieu s'est incarnée pour nous donner le sens de la vie et de la mort du Christ et de sa résurrection. Donc, voyez, les saints, ils ont fait ce chemin et nous les honorons. Et par cet honneur que nous faisons aux saints et les prières que nous leur adressons, nous obtenons nous-mêmes par leurs mérites, qui sont évidemment comptabilisés dans le ciel, et nous obtenons souvent des miracles pour nous et pour les gens pour lesquels nous prions. C'est toujours le travail de l'intercession et de ce que Dieu écoute les prières et a donné la puissance de l'esprit à ces âmes qui au ciel, eh bien, peuvent, à cause des mérites qu'ils se sont acquis, eh bien, intervenir selon les lois de la Providence pour nous. Donc la Sainte Vierge et tous les saints, c'est très important. Nous sommes là dans cette attente. Donc c'est l'Église également qui est l'intermédiaire entre l'Église triomphante du ciel, ses saints, dont nous gardons la mémoire dans les images que nous en avons et qui ne sont pas les images elles-mêmes que nous adorons, mais nous honorons simplement les images qui correspondent à l'archétype qui est au ciel, comme pour les images du Christ ou les images de tous les saints. Mais l'Église triomphante du ciel, eh bien, elle se tourne en permanence sur l'Église militante de la terre, c'est-à-dire ceux qui prient pour les autres, qui prient le Seigneur, évidemment. L'Église militante, c'est nous, l'Église en travail dans l'histoire. Et grâce à ces saints également que nous faisons intervenir la puissance de Dieu dans ce qu'on appelle l'Église souffrante, c'est-à-dire ceux qui n'ayant pas été assez purifiés, méritant la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, mais n'ayant à cause d'une partie de la justice de Dieu qui doit être appliquée, sont en purification, purification pure en grec c'est le feu, sont dans un feu. Je ne dis pas qu'ils brûlent comme sur une bouteille de gaz, évidemment, ce sont des images qu'on a utilisées, mais ils n'ont pas la vision de Dieu parce qu'ils doivent se purifier et il ne peut pas faire grand-chose pour eux parce que c'est un temps qui est de purification qui est donné par Dieu. Mais il nous est dit à travers de nombreux mystiques et la foi chrétienne évidemment que nous pouvons nous-mêmes intervenir pour eux et pour que leur temps de purification soit abrégé ou soulagé. Donc c'est ce qu'on appelle l'Église souffrante. Et pourquoi l'Église fête le jour de Toussaint les saints qui eux sont déjà dans le ciel, et quand on va le lendemain dans les cimetières, pour ce qu'on appelle le jour des morts, c'est-à-dire que nous prions pour toutes nos familles, tous ceux que nous avons connus, qui ne sont pas nécessairement au ciel, parce qu'ils n'ont pas été canonisés, donc on n'en a pas la certitude, et donc dans cette incertitude, nous prions pour eux, et nous prions le Seigneur, et nous prions les saints, par leur mérite, pour de délivrer, c'est ce qu'on appelle les âmes du purgatoire, et qui sont soulagées par ces mérites-là. Donc ce n'est pas le jour de la Toussaint qu'on doit prier pour les morts de nos cimetières, c'est le jour des morts où nous faisons intervenir, ayant prié la veille tous les saints, nous demandons à cette Église triomphante du ciel, par nos prières, par les prières de l'Église militante, de porter des fruits à l'Église souffrante, de ce qui pourrait ne pas être ciel. Certains de nos ancêtres, évidemment, sont au ciel, mais d'autres ne pourraient ne pas y être. Et donc, dans ce doute, nous prions pour eux. C'est pourquoi, à la fin de cette messe, je chanterai une absoute pour tous nos défunts, tous nos ancêtres, parce que nous sommes là aujourd'hui, mais à l'époque du Christ, nous avions des ancêtres qui vivaient à cette période. Puis après, dans l'histoire, nous avons 60 générations qui nous séparent de l'époque du Christ. Ça fait beaucoup de monde. Et nos ancêtres sont quelque part. Donc, nous espérons qu'ils sont au ciel. Et s'ils n'y sont pas, nous prions par les mérites de toutes des pierres précieuses du colis de Dieu qui s'est dressé avec les saints autour du Christ et de la Sainte Vierge. Eh bien, nous prions pour eux et nous demandons le salut pour tous et l'allègement, que tout le monde trouve sa place dans cette magnifique épître que nous a lue Emma et qui sont les 144 000. C'est un chiffre symbolique, c'est 12 multiplié par 12, multiplié par 12, multiplié par 12, vous trouvez 140 000. Alors il y a les 12 000 tribus d'Israël, c'est-à-dire le Seigneur a appelé d'abord des Juifs. La première communauté chrétienne a été pratiquement exclusivement juive. Sauf évidemment l'évangéliste qui était d'Antioche, mais le premier évangéliste. Donc, vous voyez, le Seigneur appelle ce peuple qui a été le peuple à qui ont été adressées les prophéties pour la venue du Christ. Un jour, ils se convertiront aussi, ceux qui se sont convertis, il y a des juifs convertis évidemment, ce qu'on appelle les juifs messianiques, mais 144 000, ça veut dire un grand chiffre, un jour de la conversion des juifs qui, après avoir méprisé le Messie, reconnaîtront le Messie d'Israël à la fin des temps. Cela nous est dit évidemment dans les Saintes Écritures, il y a eu beaucoup de mystiques l'ont dit, et puis les autres, toutes les nations sont appelées, et ça c'est le grand miracle du message de Jésus, l'universalité du salut. Toute âme qui naît dans ce monde est appelée par Dieu. Et alors, la garantie du salut, c'est pas d'être catholique ou orthodoxe ou protestant, la garantie du salut. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas à nous à juger qui est assez catholique ou pas assez catholique, assez protestant ou pas assez protestant. Le Seigneur regarde les cœurs purs. Ça, c'est une loi qui a été donnée par le Christ. Et donc, nous prions pour la pureté du cœur qui doit se répandre. L'Église doit donner son message. Elle le donne plus ou moins bien dans l'histoire, mais on a pratiquement fait ce qu'il dit dans l'Apocalypse de Jean, que toutes les nations auront entendu parler du Christ. Tous les cœurs ne sont pas au courant toujours, mais si le Seigneur voit des cœurs purs, eh bien, évidemment, il n'aura pas les condamnés. Donc, et quand on passe de l'autre côté, si on n'a pas connu le Christ, on trouve le Christ derrière. Donc, ceux qui ont le cœur pur le verront. Ceux qui n'ont pas le cœur pur ne le verront pas. Parce que l'image de Dieu se dérobe à ceux qui n'ont pas le cœur pur. Donc, voyez, c'est magnifique. Donc, c'est la grande universalité du salut qui est annoncée et dont les saints sont les témoins dans l'histoire. Et donc, réjouissons-nous aujourd'hui. Demandons au Seigneur cette grande grâce, nous-mêmes, de prendre le chemin du combat de la vie chrétienne pour à l'ombre de la croix, parce que ah, je vais dire ça encore, mais c'est pas tellement pour aujourd'hui, mais nous devons mesurer ce que le Christ a fait sur la croix. Cette grande souffrance n'est explicable que par le sérieux du péché. Si le péché n'était pas grave, Jésus ne serait pas mort comme ça. Mais comme le péché gravement nuit à l'âme et empêche la pureté du cœur, pour nous montrer cette importance du péché, le Seigneur est monté sur la croix et à cause de cela, nous devons non seulement détester nos péchés et nous améliorer, mais avoir beaucoup d'amour pour le Christ à cause du prix qu'il en a payé. Oui, c'est très important. Et tous les saints l'ont compris, au point que le Padre Pio s'identifie au Christ et il vit la passion pendant 50 ans. Thérèse d'Avila vit la passion aussi. Thérèse Neumann en Allemagne sont des gens qui vivaient des miracles et qui ont quand même tous les vendredis vivaient la passion du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris cet amour de Dieu et ils témoignaient à chaque génération, parce que l'homme est oublieux, que la croix du Christ ne peut pas être oubliée. Et donc là, les maisons, je vois Un brocanteur me donne souvent tous les crucifix que les gens, quand ils prennent les maisons de leurs parents ou de leurs grands-parents et qu'ils s'installent dans une maison, les crucifix vont à la poubelle, donc il les prend et il ne veut pas me les vendre, mais il me les donne. Donc j'ai une caisse de crucifix. Ça veut dire que dans les maisons, parfois on trouve que le Christ est très bien. Même les francs-maçons trouvent que le Christ est très bien, mais en réalité, la croix n'est pas derrière. Ils combattent le Christ à cause de son message. Et parce qu'ils pensent qu'ils ne veulent pas de la croix du Christ. Et donc, vous voyez, avec l'apostasie qui est arrivée à notre époque, qu'est-ce qui a disparu? Les crucifix des chambres, les crucifix des maisons. Alors, tout le monde trouve le Christ sympa, mais on trouve aussi sympa Socrate, les grands hommes de l'histoire. Et le Christ, eh bien, c'est la croix du Christ qui nous a sauvés. Et la croix du Christ, c'est là que sont passés les saints, puisque le Seigneur avait dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mon joug est léger. Ça veut dire que derrière l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la souffrance que peut nous procurer la transformation de notre ego et l'épuration de notre ego, se trouve la joie de ce qu'on voit. On voit à la télévision parfois, on voit dans des monastères, on voit des petites sœurs comme ça qui sont consacrées, elles sont toutes joyeuses. C'est pas facile le monastère, ma sœur, vous le savez très bien, mais c'est la joie qui doit surgir dans ces cœurs, et parce que ceux qui ont compris cela, ils savent que s'associant à cette croix du Christ qui sauve le monde, ils s'associent à la croix des saints portée par les saints qui nous procurent la grâce par leur mérite, et chacun de nous doit travailler dans la joie. C'est le signe d'une bonne santé spirituelle. Ceux qui font la gueule, enfin pardonnez-moi, ceux qui font la tête, ça veut dire que quand on voit des saints tristes, eh bien, ce sont des tristes saints. Donc il faut nous mettre dans la joie de Dieu. Voilà. Nous allons chanter les litanies de Notre-Dame de Paris, les belles litanies, pour pouvoir remercier le ciel à travers tous ces saints. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.